I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Toute la semaine du 27 mars, près de 400 podcasts francophones s'associent pour le premier podcast-ton, un événement inspiré du Téléthon, destiné à promouvoir le partage et l'entraide. Chaque podcast propose un épisode spécial pour mettre à l'honneur une association. Code Source participe à ce premier podcast-ton. À travers un témoignage, nous avons choisi de parler de la Maison Perchée, une association parisienne d'aide aux jeunes adultes vivant avec des troubles psychiques. Althea, 32 ans, bipolaire, témoigne aujourd'hui dans Code Source. Elle est aussi bénévole à la Maison Perchée. Elle nous raconte son histoire au micro d'Ambre Rosala.
Je rencontre Althea dans son appartement dans les Hauts-de-Seine où elle vit avec son compagnon et leur chat. Elle a de longs cheveux châtains, complètement raides, et de grands yeux verts. Althea est née et a grandi près d'ici avec sa mère qui est secrétaire médicale dans un centre médico-psychiatrique. Althea est fille unique et n'a jamais connu son père. C'est une enfant plutôt timide, très fusionnelle avec sa mère qui l'a élevée seule.
J'étais plutôt discrète, j'avais plutôt une personnalité assez sociable, mais j'étais pas forcément celle qui allait prendre la parole tout le temps, pas très expansive. Et sinon, en termes de passion, moi c'est le cinéma qui m'a passionnée depuis ado. Enfin, j'ai vraiment eu un choc de cinéma petite avec Le Roi et l'Oiseau, qui est un film d'animation que j'adore et qui m'a vraiment, que je regardais en boucle, que ma mère détestait, mais que moi que j'adorais. Et du coup, c'est vraiment ça, enfin, qui m'a animée.
Après son bac, Althea fait justement des études de cinéma et d'audiovisuel à l'université. Elle décroche un master, puis elle trouve du travail dans le cinéma. En 2015, quand elle a 25 ans, elle s'installe avec son compagnon dans un appartement de la région parisienne.
J'avais une vie vraiment tout ce qu'il y a de plus normal, du coup, avec un métier qui me passionne beaucoup, et des sorties, du temps entre amis, une vie riche, bien remplie, avec mes amis proches du lycée, mes amis de fac, vraiment un cercle d'amis qui m'entoure assez présent au quotidien. Beaucoup de voyages aussi, parce qu'on a beaucoup voyagé avec mon compagnon, Kyrgyzstan, Iran, Costa Rica, beaucoup de voyages.
Pendant l'été 2018, la structure où travaille Althea connaît une période de gros changements. C'est un moment très stressant pour elle, et Althea remarque que son comportement commence à changer.
Je ne dormais plus, mais j'étais pleine d'énergie, j'avais envie de faire plein de choses, et je me sentais vraiment connectée aux gens, à ce qu'ils disaient, comme si j'avais un peu une hyperacuité, et je mangeais plus beaucoup non plus. J'avais vécu une situation assez stressante, et du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait un peu basculé dans ma façon de prendre les choses. On se met à parler énormément, presque sans interruption, sans forcément écouter les gens qui sont autour de nous. Je disais les choses aussi beaucoup plus facilement, sans filtre, alors que je suis quelqu'un d'assez discret, enfin assez réservé. Et là, du coup, il y a comme si une petite barrière avait sauté et je disais les choses beaucoup plus directement en fait aux gens. Je me dis que c'est un état passager et pour être tout à fait honnête, c'est un état qui était plutôt plaisant et je me suis juste dit que bon bah voilà, j'avais pris confiance en moi et ça m'a pas vraiment inquiété plus que ça.
Un matin de janvier 2019, quand elle a 28 ans, Althea est dans son lit. Et comme souvent depuis quelques semaines, elle n'a quasiment pas dormi de la nuit.
Et là j'avais l'impression d'entendre la voix d'une amie qui est décédée. Et je voyais aussi beaucoup de choses, enfin des connectivités aux choses, des comme s'il y avait des coïncidences de partout en fait. Ce matin-là, mon compagnon était sous la douche. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai parlé, j'avais un discours un peu incohérent et je lui ai dit « Attends, il y a Lucas qui me parle. » Mais il est sous la douche. Je fais « Oui, mais non, on est en train de parler par la pensée. » Et mon conjoint est parti au boulot parce que je lui ai pas dit tout ce qui se passait. Et ma mère est venue et du coup, là, elle a vu que ça n'allait pas, quoi. Je me rendais pas compte que ça dérapait. Pour moi, c'était vraiment comme si j'avais découvert un peu une face cachée du monde et que du coup, j'étais un peu omnisciente et que je comprenais tout. Et pour moi, tout était normal. Et en fait, je découvrais juste un nouvel univers et je voyais pas ce qui clochait, en fait.
La mère d'Althea se rend compte qu'elle a besoin d'aide. Elle appelle alors un ami de sa fille qui travaille en milieu psychiatrique pour lui demander conseil.
Cet ami a tout de suite compris que voilà, je faisais une crise, ce qu'on appelle une crise maniaque. Et ils ont décidé de m'amener à l'hôpital et ils voulaient m'amener à Sainte-Anne. Et alors moi, dans mon esprit, bah, c'était vraiment l'hôpital des fous, en fait. Et du coup, je me dis, mais non, je suis pas folle, je veux pas aller là-bas, je veux pas qu'on m'enferme. Enfin, pour moi, c'était vraiment l'archétype de l'hôpital psychiatrique. Et là-bas, c'était quelque chose qui m'effrayait, en fait. Et du coup, j'ai refusé, j'étais vraiment vindicative à dire non, je veux pas.
La mère d'Althea et son amie lui proposent de l'emmener plus tôt à l'hôpital le plus proche de chez elle, ce qu'elle accepte. Mais comme elle est encore agitée, ils appellent les pompiers pour l'accompagner jusqu'à l'hôpital.
Le moment où du coup, ils ont dû appeler les pompiers pour m'emmener là-bas, là, ça a été vraiment le choc et où j'étais mise sous contention et j'avais l'impression d'être vraiment seule au monde et c'était un peu horrible. Et puis après, là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le choix. J'ai vécu ça de manière plutôt résignée, quoi. Je suivais ce qu'on me disait, je prenais les cachets qu'on me présentait et j'ai suivi le cours des choses, le cours des rendez-vous, le cours des repas et où je me suis un peu laissée faire, quoi.
Comme elle a l'air d'aller mieux et qu'elle n'est plus agitée, Althea peut sortir de l'hôpital au bout de quelques jours. Elle rentre chez elle, mais elle sent que quelque chose ne va toujours pas.
J'entends plus de voix, mais j'ai toujours l'impression d'être très connectée aux choses, d'être très connectée aux gens, de faire des liens avec... Je vois un papillon, je me dis ça c'est un signe, je vois des signes partout. Enfin, je continue vraiment à voir des signes dans tous les sens. Donc cette amie qui travaille du coup en psychiatrie a dit, ça ne va toujours pas, il faudrait que tu retournes te faire hospitaliser. Mais du coup là, cette fois, il m'a accompagnée pour aller voir un établissement qui vraiment était spécialisé dans ce que j'avais. Et là, ça a été un choc parce qu'on m'a placée en unité fermée, donc c'est-à-dire pas de portable, pas de visite pendant un certain temps. Je suis vraiment isolée pour vraiment faire redescendre la pression et essayer d'arrêter d'avoir ces idées qui s'accélèrent et du coup d'être sollicitée, de sursolliciter des personnes aussi, dans le but de me faire redescendre sur Terre en fait. Et là, c'était un peu compliqué à vivre.
Les médecins posent un diagnostic et annoncent à Althea qu'elle est bipolaire. Ils lui expliquent que c'est un trouble psychique, alternant des phases maniaques avec une exaltation de l'humeur, comme celle qu'elle vient de vivre, et des épisodes dépressifs. Althea n'en a pas encore fait, mais elle peut, après l'épisode maniaque qu'elle vient de faire, tomber dans une phase de dépression grave.
Quand ce mot de bipolarité est posé, j'ai l'impression que c'est pas moi au début, qu'on parle pas de moi, et en même temps, vu ce qui m'est arrivé... Il n'y a pas d'erreur, en fait. Ça doit être ça. Je comprends pas trop ce qui m'arrive et c'est un peu un choc. Quand on essaye de retracer ensemble avec les médecins mon passé, il n'y avait pas vraiment de signes avant-coureurs, au final. Parfois, pour certains, c'est un soulagement, le diagnostic, parce qu'ils ont vécu des hauts et des bas toute leur vie et en fait, on a eu du mal à poser un mot là-dessus. Et moi, c'est la première fois que je vis une crise comme ça. J'ai jamais fait de dépression avant. Et on me dit, plus vous faites de crises, plus vous avez de risques d'en faire, en fait. C'est un peu un moulin qui s'alimente, en fait. Et je me dis, le but, c'est d'éviter d'en refaire et d'éviter de tomber en dépression aussi après, parce qu'après ce genre de crise, le gros risque, c'est de tomber en grosse dépression. Et je me tourne vraiment vers l'avenir et avec un sentiment de pas de sérénité, quoi.
Les médecins lui donnent un traitement et lui conseillent de suivre des groupes de parole à l'hôpital. Elle rencontre alors d'autres patients bipolaires ou souffrant d'un autre trouble psychique.
Je vois des gens en fait qui sont plus âgés que moi, qui sont là, donc ce qui qui ne s'en sortent pas vraiment avec la maladie, quoi, qui luttent au quotidien pour avoir une vie normale et qui n'ont pas forcément d'emploi, qui parfois ont quand même des enfants, mais pour qui c'est compliqué, enfin voilà, la vie au quotidien. Et là, je commence à réaliser ce qui m'arrive. Je me suis un peu dit, mon avenir va être vu à l'aune de ce diagnostic. Est-ce qu'il va falloir que je tire un trait sur certaines passions, enfin voilà, les voyages par exemple, sur une vie de famille future. Ça m'apportait pas forcément de perspective d'avenir avec la maladie, d'avenir serein avec la maladie en fait.
Althea sort de l'hôpital en février 2019, un mois et demi après sa crise maniaque. Elle rentre chez elle avec un traitement à prendre tous les jours.
Je suis redescendue sur terre, donc la chute est un peu raide, quoi. Et le retour à la réalité est dur. Et au final, je me sens de nouveau pas moi-même, avec toujours des pensées un peu accélérées, mais cette fois un peu un sentiment de dépression. C'est ce qu'on appelle en fait un état mixte. C'est une phase en fait où moi je sentais que j'avais plein d'idées qui venaient, toujours avec ces pensées très présentes, et en même temps aucune envie de me lever, de manger, enfin de faire des choses, enfin vraiment pas d'énergie en fait, pas d'énergie. Et je sentais que c'était pas vivable, quoi. J'en parle à la psychiatre qui me suit et qui me dit en fait il faudrait revenir pour réajuster ton traitement. J'ai pas envie de rester comme ça toute ma vie dans cet état-là, donc j'y retourne. Et là pour le coup je crois que ça a été quelque chose d'encore plus dur pour mes proches, enfin, de me voir retourner. Mon conjoint, il me le dit, je sais pas si je vais pouvoir tenir le coup, si tu retournes tous les deux mois à l'hôpital. Et là, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai pas envie d'entendre, c'est ça, quoi. Et du coup, je lui fais comprendre un peu rudement, parlant à quelqu'un d'autre, mais pas à moi, en fait. Voilà, j'ai besoin de me recentrer sur moi et d'y aller pour aller mieux, quoi. C'est vraiment un moment de faiblesse parce qu'il a été un rock pendant toute mon hospitalisation, il a été vraiment là, et c'est du coup ce coup de massue de me voir retourner à l'hôpital encore une fois, ça a dû vraiment être très dur pour lui.
Althea reste à nouveau quelques semaines à l'hôpital, mais elle le vit beaucoup mieux. Elle sort en mars 2019 avec un nouveau traitement plus ajusté. Elle fait aussi attention à ne pas perturber son sommeil, ce qui pourrait précipiter un nouvel épisode maniaque ou dépressif. Deux mois plus tard, en mai 2019, elle sent qu'elle va beaucoup mieux et elle décide de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique.
J'ai pu reprendre deux jours par semaine, puis au bout de quelques mois, trois jours, puis au bout de quelques mois, quatre jours. Et en fait, j'ai pu reprendre le travail progressivement, et je pense que ça m'aide à avoir un cadre aussi. Le fait de travailler, c'est vraiment pour moi important d'avoir tous les jours une envie de me lever le matin. Et j'étais contente de reprendre en fait le travail, mais après, je me suis dit, jamais je pourrais reprendre le travail à plein temps. Ça me semble un but impossible. Entre les groupes de parole auxquels j'étais inscrite, les rendez-vous avec le médecin. Et au final, un an après, j'étais de nouveau à plein temps et ça se passe super bien. Donc c'est vraiment, il faut se laisser le temps en fait.
Quelques mois après avoir repris le travail, Althea doit gérer l'organisation d'un événement d'ampleur. Elle est un peu stressée et elle recommence à sentir les tout premiers symptômes d'une phase maniaque. Un manque de sommeil couplé à beaucoup d'énergie. Elle réagit tout de suite, elle en parle autour d'elle et elle arrive à éviter une nouvelle crise. Althea a peur de la rechute et elle met longtemps à se considérer comme stabilisée.
Ça a mis au moins un an en fait. Ça a été long parce que même si voilà, j'avais les traitements, je sentais que ça agissait. Je me surveillais beaucoup en fait, j'étais vraiment tout le temps en hypervigilance sur ce que je ressentais, sur la moindre mauvaise nuit que je passais, je commençais à stresser et j'ai commencé un peu à relâcher, je reste toujours attentive mais à me faire confiance en fait, j'ai commencé à me refaire confiance vraiment au bout d'un an je dirais.
En novembre 2021, Althea entend parler d'une association qui s'est créée un an plus tôt, la Maison Perchée, pour accompagner les jeunes adultes qui vivent avec un trouble psychique. L'accompagnement prend la forme soit d'un groupe de parole entre plusieurs personnes concernées par le même trouble, soit d'un tête-à-tête entre quelqu'un qui est stabilisé et quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué. Althea apprend que l'association recherche des bénévoles et elle décide de la rejoindre.
Comme j'étais déjà stabilisée depuis un moment, je me suis dit, si mon expérience peut aider d'autres personnes, en fait, ça peut être vraiment super bénéfique pour d'autres qui étaient dans l'état dans lequel j'étais il y a quelques années. On est vraiment assez isolé quand on a l'annonce du diagnostic. on a besoin de perspectives et on a besoin d'échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose que nous. Et c'est vraiment ce qu'apporte la Maison Perchée. Ça réunit à la fois les gens atteints de bipolarité, de schizophrénie, des troubles borderline. Donc ça réunit vraiment toute une communauté assez large sur les troubles psy. On a vécu des choses vraiment hors du commun. Et du coup, pouvoir échanger là-dessus sans être jugé, avec des gens qui peuvent nous comprendre à 100%, c'est vraiment essentiel. Ça donne vraiment de l'espoir, quoi.
Althea anime des groupes de parole, puis elle devient responsable du chat en ligne de la Maison Perchée. Elle s'engage dans l'association pour aider d'autres jeunes, mais aussi pour briser les tabous autour de la maladie, alors qu'elle-même ne parle pas facilement de son trouble bipolaire autour d'elle.
On entend parfois « Ah, c'est un vrai bipolaire, c'est quelqu'un qui change d'avis toutes les deux secondes, qui change d'humeur toutes les deux secondes, et c'est vraiment pas le cas. » Et pour moi, c'est un des stigmates que je redoute le plus, ce serait d'être quelqu'un sur qui on peut pas compter, en fait. Alors que... une fois qu'on a le traitement qui nous convient, on est totalement fiable, quoi. Il y a cette peur d'être jugé, cette peur un peu de voir le regard sur soi changer. Il y a un vrai travail à faire et c'est vrai que le fait de prendre la parole aujourd'hui, c'est aussi un travail qui sert à la déstigmatisation. Je voudrais prouver aux gens en disant tu vois, en fait, depuis tant d'années, je suis diagnostiquée et en fait, tu l'as jamais vu parce que je suis comme toi, en fait. Ça change rien à ma vie au quotidien, ça change rien à mon travail. Ça change rien à mes projets, au final. Je vois l'avenir très sereinement, malgré ce qui m'est arrivé. Avec mon conjoint, on a un projet bébé. Ça me freine plus au quotidien. Aujourd'hui, c'est même plutôt porteur de sens pour moi, avec l'engagement que j'ai, à la Maison Perchée. C'est plutôt une chose où je me dis, ça a été un choc dans ma vie. J'ai quand même vécu quelque chose d'extraordinaire et en même temps d'un peu fou et de dur. Et j'ai réussi maintenant à en faire quelque chose qui va donner de l'espoir aux gens. Donc ça, c'est vraiment important pour moi.
Ambre, on comprend qu'Althea vit maintenant avec le risque de faire un jour un nouvel épisode maniaque. Est-ce qu'elle accepte cette situation ou est-ce que ça l'inquiète ?
Alors oui, il y a toujours un risque de rechute et elle m'a dit qu'elle en était consciente. Par contre, ça ne l'obsède pas du tout. Elle vit très bien avec et surtout, elle a confiance en son traitement, en son mode de vie et en elle tout simplement pour ne pas avoir peur de la rechute au quotidien.
Je le disais au début de cet épisode, on a fait ce sujet dans le cadre du premier podcast Ton, près de 400 podcasts francophones qui, pendant une semaine, mettent à l'honneur l'association de leur choix. Le but est de promouvoir l'entraide, le partage, d'inviter aussi à faire des dons à ces associations. Concrètement, que fait l'association que tu as choisie, la Maison Perchée, qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris ?
C'est une association qui accompagne les jeunes adultes qui vivent avec un trouble psychique, donc bipolarité, schizophrénie ou trouble borderline. Et en fait, ils ont plusieurs programmes d'accompagnement. Ça peut être un groupe de parole entre plusieurs personnes concernées par le même trouble, ou alors un tête-à-tête, un accompagnement spécialisé entre quelqu'un qui est stabilisé depuis un certain temps et quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué. Et le but, c'est vraiment de parler de la maladie, de déconstruire les clichés et surtout de donner de l'espoir pour la suite, parce que comme Althea le raconte dans le sujet, c'est pas toujours facile de se projeter quand on vient d'être diagnostiqué. Et la Maison Perchée propose aussi un accompagnement pour les familles avec, pareil, des ateliers, des groupes de parole. Et à chaque fois, ça se fait soit dans leurs locaux à Paris, soit en ligne sur une plateforme sur Internet pour que les gens qui n'habitent pas en région parisienne puissent aussi profiter d'un accompagnement.
Ambre, de quoi est-ce que la Maison Perchée a besoin aujourd'hui ?
Alors, ils recherchent activement des bénévoles, des personnes stabilisées et qui pourraient venir partager leur vécu et animer des groupes de parole, mais aussi d'autres bénévoles pour faire tourner l'association et son lieu de vie à Paris.
Merci Ambre Rosala. Et si vous envisagez de faire un don à la Maison Perchée ou de donner de votre temps, rendez-vous sur maisonperchée.org, sans accent bien sûr. Et pour les infos sur le podcast Ton, l'adresse c'est podcastton.org. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Clara Garnier-Amouroux et Emma Jacob. Réalisation, Pierre Chaffanjon.